Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, vous fermez vos gueules, merci.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, bien malgré lui, se retrouve dans la même position que l'année précédente et celle encore d'avant, embarquée, contraint et forcé dans le calendrier imposé par Disney pour nous enfoncer au fond de la gorge du Star Wars jusqu'à ce que nos derniers neurones résistants cèdent et que nous rendions les armes critiques. Ça, c'est ce que je suppose. Toujours est-il que, pour l'heure, ce plan machiavélique a échoué, car c'est avec toute la vigueur de notre cinéphilie que nous aborderons aujourd'hui l'épisode 8 de la saga Les Derniers Jedi de Rian Johnson, dont on va causer avec une véritable foule, puisque autour de la table, ici à l'antenne Paris, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 preux représentants d'un ordre oublié de chevaliers amoureux du 7e art. Daniel Andreev, salut Daniel.
Coucou.
Anaïs Bordage, salut Anaïs.
Salut.
Yannick Dahan, salut Yannick.
Salut.
Julien Dupuis, salut Julien.
Salut.
Et Alexandre Arvaux, salut Alex.
Bonsoir.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 111 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Les Derniers Jedi reprend plus ou moins, les choses là où le Réveil de la Force, l'épisode 7, les avait laissés il y a 2 ans, avec d'un côté les rebelles menés par la princesse Leia, qui tentent de tenir tête aux gros méchants du Premier Ordre, dont le patron, le suprême leader Snoke, est également le mentor de Kylo Ren, le nouveau Dark Vador de la série, en plein doute sur ses choix, sur sa décision de rejoindre le côté obscur de la Force. Il sait plus trop où il en est, le petit chat. En parallèle à ça, on retrouve également Rey, la jeune héroïne de l'épisode 7, qui a fini par remettre la main sur Luke Skywalker et veut le convaincre de revenir aider les rebelles. Voilà, en très très résumé, d'où on part, pas d'extrait, vous avez tous vu la bande-annonce 1000 fois. Un avertissement ceci dit, c'est un épisode 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu Les Derniers Jedi, que vous y tenez vraiment très très fort, mettez sur pause, allez au cinéma, retrouvez-nous après, parce que là, on va absolument tout griller. Qui se lance, qui commence, qui veut mettre les pieds en premier dans cette histoire? Putain, vous êtes tous timides là d'un coup. Alexandre, t'es à côté de moi. Allez, Yannick, vas-y.
Allez, je le fais comme ça, je partirai plus vite.
Il voulait partir au bout de 10 minutes.
Non, parce que je pense que je vais être la voix ce soir. Je veux être la voix la moins vénère à cette table là. Même si au fond de moi, je n'en penserai pas moins. Mais ça cristallise tellement de fantasmes d'un côté, de haine de l'autre. Aujourd'hui, ça devient très difficile de parler de Star Wars, en tout cas de pouvoir échanger dans la nuance et dans l'argumentation avec des gens qui sont tellement fanatisés qu'ils ne supportent pas la moindre critique et qui te balaient du revers de la main. T'es un vieux con, tu sais plus apprécier les choses cool. Et voilà. Et de l'autre côté, peut-être un peu trop vindicatif par rapport à quelque chose qui... pour moi, dont l'intérêt s'étiole fondamentalement avec le temps, non pas que j'ai plus l'âge ou non pas que si, c'est jusqu'au bout d'un moment, je trouve qu'il y a tellement d'alternatives plus intéressantes à ces blockbusters-là que j'ai plus envie de m'énerver dessus. Donc, je suis quand même allé le voir par acquis de conscience. On se rappelle qu'on avait tous quand même bien, bien déchiré le Réveil de la Force. Ouais. Moi, c'est un film...
Je ne m'en rappelle pas comme ça.
Moi, je me rappelle qu'on l'avait bien déchiré, qu'on s'était fait d'ailleurs bien déchirer par la suite. Aussi, mais c'est de bonne guerre. Moi, sur ces derniers Jedi, je vais essayer de faire rapide parce qu'on est plein à table. C'est un film malade.
Ouais.
Je trouve que c'est un film malade. J'étais assez muet à la sortie. Julien et Stéphane peuvent en témoigner. Et je pense que je savais pas trop.
Ce qui est rare, je savais pas trop comment gérer le truc.
La réalité, ça va mieux, non, depuis, ça va mieux. Ouais. C'est qu'il y a mon ressenti, puis il y a ce que je vois de la fabrication du film. Et là-dessus, je pense que je démordrai pas des masses par rapport au Réveil de la Force, même si c'est un film radicalement différent. Et en même temps, théoriquement, c'est ça l'intérêt de ce film-là. C'est-à-dire que si je devais voir les choses d'un point de vue théorique et à moitié plein, je dirais que c'est un film malade dans le sens où ça me semble assez évident que le Rian Johnson, c'est ça le monsieur, ouais, qui est arrivé sur cette chose et qui, sur lequel on a dû lui braquer sur la tempe 250 guns en lui disant fais attention à ce que tu fais, n'aimait clairement pas ce qui a été fait dans le Réveil de la Force. Et je trouve que ça se voit. C'est-à-dire que fondamentalement, tout le film est une entreprise de destruction des éléments qui ont été mis en place dans le précédent par J.J. Abrams, avec la volonté, défaut de la volonté, la velléité d'amener vers autre part. Ce que nous témoigne très clairement la fin du film, on la spoilera peut-être après, mais ces petits-enfants à la fin du film, la plupart des choses qui se passent, la mort de certains personnages fondamentaux et principaux, font qu'on est en train de dire faisons table rase et repartons sur quelque chose d'autre. Donc, le problème que j'ai, si tu veux, fondamentalement, c'est que je trouve que c'est long, 2h30, pour un film où fondamentalement le sens provient de ces 10 dernières minutes, et qu'à côté de ça, si ça racontait quelque chose d'un ton soit peu et intéressant et émouvant et structurellement bien pensé, ça aurait pu un peu mieux passer. Moi, en termes de ressenti, j'ai quand même passé 2 heures à m'ennuyer profondément. Je reconnais au film, d'un point de vue théorique, cette volonté destructrice, et je trouve qu'elle est pas plus mal quelque part, parce que on arrive à un stade où Disney ne sait plus quoi faire de cette mythologie-là, où les mecs ne savent pas quoi en faire, et avoir un type qui, un peu de manière névrotique à l'intérieur, est en train de nous dire en sous-texte, mais putain, on fait n'importe quoi, alors autant tout bazarder et essayer de repartir à zéro, comme on peut reconnaître des petits éléments sympas. Moi, j'ai trouvé le final sur cette planète de celle-là, avec un petit peu de Millennium Falcon qui se balade, j'avais l'impression, ça m'a réveillé un peu, si tu veux. Mais avant, avoir cette espèce de structure de l'Empire contre-attaque revisité, mais en systématiquement créant du non-événement, puisqu'on n'est pas capable d'avoir une évolution cohérente des personnages, donc on ne peut pas recréer ce qui était. Ce qui est le plus symptomatique pour moi, c'est la scène de Rey qui va dans sa caverne, comme Luke Skywalker allait dans sa caverne s'affronter lui-même en voyant Dark Vador. Et ben là, t'as la même vocation avec cette scène-là, sauf qu'elle ne raconte fondamentalement pas grand-chose. Ouais. Et le problème que j'ai, il est là. C'est-à-dire, si je le regarde objectivement, je trouve que en termes de narration, c'est mal construit. Les personnages ne m'intéressent pas. Ce n'est pas touchant, ça part dans tous les sens. C'est malade. Après, théoriquement, je trouve qu'on peut lui trouver une forme d'intérêt, mais comme œuvre bancale. Voilà. Après, moi, je suis plus dans le fantasme de Star Wars, donc je vais pas défendre bec et ongle parce qu'il y a un sabre laser et un personnage qui m'a fait kiffer, ou un spin-off de je sais pas quoi, ou un caméo de un tel. Quelque part, il était temps que Mark Hamill, la princesse Leia et tout ça partent à la poubelle. Donc voilà. Je dirais pour ces 5 dernières minutes, je laisse le bénéfice du doute pour la suite, même si au fond de moi, je n'y crois plus une seconde.
C'est beau. Putain, quelle mesure. Yannick Daron, qu'est-ce qui s'est passé?
Je m'assagis.
C'est vrai.
Il est amoureux.
On va dire 3 trucs, il va revenir.
Il va repartir.
Oui, putain, mais non, c'est de la merde. Non, je suis pas en train de dire que c'est bien, hein. Attention. C'est pas ce que je dis.
Anaïs, on va faire dans l'ordre, hein, on va faire un petit tour de table.
Ça marche. Moi j'ai été assez déçue, c'est long, effectivement c'est très long, c'est 2h32 et on les sent bien passer. C'est très éclaté, en fait. On a des personnages qui sont pas rassemblés pendant tout le film. Chacun est un peu dans son intrigue B, son intrigue C, son intrigue Z. Et du coup, c'est un peu compliqué de sentir la cohérence du film, quoi. Il n'y a pas trop de cohésion, ça part un peu dans tous les sens. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que ça commence à ressembler à tous les films qui sortent depuis ces dernières années, depuis en fait Avengers et les blagues un peu méta de Joss Whedon, où c'était un peu novateur, enfin c'était un peu marrant à l'époque, quoi. Et en fait, là maintenant, tous les films font ça. Ouais. Bon, tous les Marvel, hein, on a Guardians of the Galaxy qui est vraiment le symbole, je pense, de ça, enfin l'aboutissement, quoi.
De ça, ouais.
Voilà, et sauf que t'as aussi Wonder Woman, t'as en fait tous les films de franchise, quoi, tous les gros films qui commencent à faire la même chose. Et là, c'est pareil, il y a plein de blagues méta qui sont pas trop en accord avec le reste du ton du film, quoi, qui viennent casser des moments qui devraient être assez solennels et qui en fait voilà, t'as deux personnages qui se retrouvent et au lieu d'avoir un moment un peu solennel, t'as Leia qui dit bah oui je sais j'ai changé ma coupe de cheveux, enfin
oui.
C'est un peu fatigant et en fait il y a aucune surprise parce que c'est devenu très formulaïque, en fait c'est toujours les mêmes films, quoi, on sait que c'est la préparation pour le prochain, enfin donc ça c'est vraiment il y a aucune surprise, donc ça, moi ça m'a vraiment déçu. Le point positif, c'est déjà qu'ils continuent dans leur entreprise de diversité, qu'ils veulent ramener des nouveaux personnages, beaucoup de personnages féminins. Il y a un nouveau personnage, Rose, qui est vraiment sympa. Il y a Laura Dern qui joue un personnage vraiment cool de femme assez autoritaire, tout en restant douce et pas à la caricature de la meuf qui crie sur tout le monde. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment le point, je pense, positif, et c'est ça que les gens apprécient beaucoup, je pense, avec cette nouvelle saga, quoi. C'est l'aspect diversité. Et pour moi, ce que je retiendrai le plus de positif, c'est qu'il y a quand même, surtout vers la fin, la patte Rian Johnson qui émerge. Pendant toute la première partie du film, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a aucun plan large, il n'y a pas du tout, justement, c'est ce qu'on a l'habitude de retrouver dans son cinéma d'habitude, quoi. Et vers la fin, justement, dans cette scène de désert, avec les traînées rouges, comme ça, c'est sublime. Et en plus, il y a vraiment ces plans immenses qui sont vraiment beaux et vraiment mémorables. Je trouve que la première partie manque beaucoup de ça, mais voilà, vers la fin, il y a cette espèce de... d'éclatement de couleurs. Enfin, j'espère que c'est voulu et que c'est pas parce que le truc est tellement passé à la lessive des studios que la première partie est beaucoup plus sombre et foutraque et pas très jolie à regarder que la deuxième. Mais en tout cas, vraiment, la fin est mémorable, je trouve, visuellement. Il y a vraiment des très beaux plans. Il y a des nouveaux aliens qui sont bien foutus, des petits renards de glace ou je sais pas trop ce que c'est, mais qui sont très jolis à regarder. Enfin, visuellement, il y a quand même des trucs assez cool. Et je trouve qu'on arrive quand même à sentir la patte de Rian Johnson, ce qui n'est pas toujours le cas dans des franchises comme ça, où le réalisateur n'a pas vraiment d'espace et d'importance dans le grand plan, quoi. Mais voilà, le scénario est un peu, ça tourne en rond.
C'est comme trois fois la même histoire de suite, quoi.
Voilà, c'est ça. Il y a trois intrigues différentes qui sont complètement déconnectées et ça tourne en rond, ça dure trop longtemps.
Qui raconte pas grand-chose.
Non, c'est ça. C'est vraiment, ça aurait pu tenir en 2 heures ou 1h50 et en fait, ils font durer ça sur 2h30. C'est pas forcément utile, et c'est vrai qu'à la fin, enfin vraiment, je me souvenais même plus de ce qui s'était passé dans le film pendant que je le regardais, quoi. Oui. C'est vraiment pas mémorable, et ça, c'est quand même dommage pour un truc qui est censé être épique. Ça l'est pas du tout, je trouve.
Le dernier truc que tu viens de dire, pour moi, c'est le but des productions Disney et leur cheval de bataille, c'est de créer des spectateurs immédiatement amnésiques. Ouais. Pour pouvoir nous resservir ad vitam aeternam, éternellement le même film, le spectateur idéal, c'est celui qui oublie. C'est-à-dire que et qui va retrouver du coup le même plaisir à chaque vision de quelque chose qui est répété à l'infini. Et ça, c'est introduit dans le film. Alors c'est intéressant et effectivement, je me souviens il y a 2 ans, on avait eu cette brève discussion avec Julien pendant l'émission où je me disais que j'avais plus trop d'espoir. Il me disait bah non, on peut toujours espérer à chaque fois. C'est un nouveau réalisateur, effectivement. Et là, avec Rian Johnson, on pouvait aussi avoir cet espoir de se dire, à un moment donné, qui sait, quelqu'un peut rentrer dans la machine et par sa personnalité, son talent, sa vision, en faisant l'exercice du métier de cinéaste, fissurer un peu le truc. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans le film, mais spoiler.
Oui, tu peux y aller.
Spoiler sur ce que je vais dire.
Ah oui.
Finalement, à mon avis, ça ne fonctionne pas.
Oui.
Mais il y a tout un discours dans le film sur le fait de une volonté d'un certain nombre des personnages, et notamment un personnage emblématique comme Yoda qui arrive pour porter ce discours, qui est de balancer le mythe à la poubelle et se dire que finalement les artefacts de ce qu'est Star Wars n'est pas important, parce que la mythologie Star Wars survit à tous ces artefacts. Et donc il y a un certain nombre d'éléments dans le film qui participent à littéralement à la démystification. La scène la plus symbolique de ça, c'est au tout début du film, quand il étend le sabre laser à Luke Skywalker, il le prend et puis il le balance par terre parce qu'il s'en fout, en fait.
Ouais.
Et il y a un certain nombre d'éléments de démystification. Ça passe par parfois des gags qui viennent effectivement briser la solennité de tel ou tel moment. Ça passe par des blagues plus ou moins méta. Il y a un moment, il y a un plan sur une sorte de vaisseau qui a une forme un peu bizarre et on se rend compte que c'est un fer à repasser.
Ça, c'est assez symptomatique quand même. C'est un élément pilier quand même de la démarche.
Tout le film est construit là-dessus, c'est-à-dire sur... c'est pas très important tout ça, et on peut y foutre le feu, et le mieux c'est d'oublier, de faire table rase et de recommencer à zéro, parce que à mon sens, c'est le projet de Disney. C'est de faire la table rase systématique, de faire des films qu'on oublie dès qu'on sort de la séance. Comme ça, on peut même aller le revoir plusieurs fois. Ouais. Et c'est comme faire du grand 8, quoi. Voilà, on va prendre son rail. Et du coup, on est dans une démarche de spectateur qui, pour moi, on arrive à une sorte de point où pour apprécier Star Wars, apprécier ces nouveaux Star Wars, revient à une démarche qui est presque de croire volontairement au Père Noël, c'est-à-dire de s'astreindre à quelque chose auquel, quand on prend deux pas de recul, n'a aucun sens. Personne ne croit à ce truc. C'est-à-dire qu'ils sont là. De toute façon, j'ai été voir le film à la première séance le mercredi matin. Bon, il y a des gens qui s'excitent un peu, qui se mouillent. Il y a le compte à rebours, machin. Tu te tapes deux pubs avant le film en partenariat avec je sais pas quoi, Citroën ou quoi, qui te vendent Star Wars.
Et puis la Poste aussi.
Et la Poste.
Leclerc, tu es mis
très explicitement dans toute ton expérience dans un truc. Franchement, le cinéma, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voilà. Donc moi je suis arrivé à un point où j'arrive à trouver par moment effectivement, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. La scène dans le désert de sel avec les traînées rouges, c'est très beau. La destruction du destroyer avec le démarrage en vitesse lumière. C'est une belle scène avec cette sorte de ralenti sans son et tout. Il y a des trucs qui sont chouettes, mais putain, en fait, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous.
Exactement dans la même situation émotionnelle que David sur le projet. Tu me paries que toi. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
C'est beau, Stéphane.
Bah ouais, il y a pas mal de choses qui ont été dites là. Le truc, c'est que
effectivement,
il y a. Je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'on se rappelle pas des choses, parce que mine de rien, comme ce film-là est une entreprise de démolition du précédent. Bah, je me suis rendu compte en voyant ce film-là que je me rappelais des éléments constitutifs du précédent, même s'ils valaient que dalle. Et je peux, pour le coup, les citer littéralement. Bon, on a vu le film hier, mais le truc, c'est que Kylo Ren qui casse son masque parce que en fait, c'est un look de merde, et donc en fait, ils ont décidé qu'il aura un autre look plus tard, peut-être. Mais en tout cas, pardon, celui-là. Donc on pète ce masque-là parce que c'est un sous Darth Vader cosplay, quoi. Ouais. T'as effectivement le jeté de sabre laser.
Phasma.
T'as hein?
Phasma.
Ouais. T'as Phasma qui est un personnage super important du précédent. On t'a dit qu'elle allait revenir plein de fois, etc. Elle vient, elle se fait buter. Ouais. Mais bon, elle pourra toujours revenir dans le prochain, on sait jamais. Oui. Tu vois, voilà.
Il y a des figurines avant, non?
Snoke, ça c'est carrément hallucinant, Snoke, c'est génial. C'est les mecs, ils te butent l'empereur au milieu du deuxième film et démerde-toi. Voilà, et le mec c'est censé être donc Palpatine le Palpatine de cette nouvelle trilogie et il se fait crever comme un trou de balle.
C'était sympa de le voir mourir quand même.
Ouais enfin dans le troisième, je crois, quoi, à la fin, tu vois, j'en sais rien.
Ça fait partie du gag, hein. ils l'ont tellement peu développé que ils l'ont
mais c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait le type décide de détruire tout ce qui a pas été développé. Je pense que quand il a dû se dire on va faire ça avec Rey et Finn, les mecs lui ont dit bah non, tu peux pas faire ça. Il faut qu'on les garde pour les prochains quand même, ceux-là. Mais il les développe pas plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce problème d'un côté où, ok, c'est une entreprise de destruction. Il fait un deuxième trou du cul à épisode 7. Voilà, lui aussi. Donc, voilà, on y va. Et en fait, à côté de ça, il y a ce que lui cherche à construire. C'est-à-dire que les passages entre nids et objets qui ne sont pas du tout traités. Ouais. C'est-à-dire, on sait pas qu'on se fait chier à épisode 8 parce qu'on se fait chier, parce que c'est le rythme est chiant, c'est parce que ça raconte pas les passages qui sont censés raconter. C'est-à-dire que on se retrouve en face de Luke Skywalker qui ne veut pas entraîner Rey, et il ne l'entraîne pas. C'est-à-dire que le seul moment où il accepte plus ou moins de l'entraîner, il fait oh non, finalement. Et en fait, il l'accepte comment? Il l'accepte parce qu'on lui passe un extrait d'épisode 4. Donc le truc, c'est que ah, tu m'as eu, ah bon, c'était aussi facile que ça, d'accord, ok. Donc il y va, et puis finalement il y va pas.
Et sur l'île pendant 50 minutes de film.
Et je pense que la phrase clé du film, c'est Ben Solo qui le dit à Rey. Il lui fait, tu n'as pas ta place dans ce film, tu ne sers à rien, tu es la fille de roturier ou je sais pas quoi, et tu n'as pas c'est pas ton histoire. Ouais. Et le mec, en fait, il explicite clairement un personnage qui n'existe pas, qui est cette espèce de fan boy, en fait, qui est censé être représenté. C'est pour ça que moi, La scène finale, on en parlait hier avec, mes deux amis, là, avec Yannick et Julien, quand on est sortis. Moi, elle me fait rien parce que pour moi, elle fonctionne comme une pub Star Wars. C'est-à-dire que littéralement c'est le gosse. C'est le petit gamin, les petits esclaves en fait, qui jouent à.
La suite au prochain épisode.
Mais c'est ça, c'est la promesse de. On a détruit une promesse de le renouveler, mais ils le feront pas.
Mais qui fonctionne comme une pub, comme le gamin qui est déguisé en Darth Vader et qui fait bouger la BMW de son père. Tu vois, c'est la même logique en fait. Et pour moi, c'est suffisamment pas traité pour que ça fonctionne, tu vois.
J'adore cette pub.
Donc l'idée.
C'était génial cette pub. Hein.
Donc l'idée, c'est que moi, je veux bien qu'ils déconstruisent le précédent, mais pour construire quelque chose qu'ils ne fait pas. Personnellement, pour moi, Rian Johnson, c'est pas un grand cinéaste, mais c'est quelqu'un qui a certains mérites, on va dire, sur des films comme Looper. Mais déjà, Looper, c'est un film qui n'est pas cohérent en lui-même. Alors je ne l'attends pas à ce que Rian Johnson soit cohérent dans une trilogie qui n'est même pas vraiment pensée, puisque. Au moment où celui-là était en train de se terminer, on savait déjà qu'ils étaient en train de virer Colin Trevorrow pour reprendre J.J. Abrams, qui pourra faire ce qu'il veut en fait par la suite. S'il veut mettre un casque plaqué or à Kylo Ren, il le fera. Ils en s'en fout, tu vois. Il reviendra sur ces trucs-là. Il veut faire revenir.
Il peut tout faire passer avec une blague.
Ouais. Maintenant, le scandale, le truc dont on parle pas. Ah, ok. C'est la mort de l'amiral Akbar.
Ouais. C'est quand même le personnage le plus charismatique de toute la saga et qui crève comme une merde.
Et ça, c'est honteux. Le mec devrait avoir un enterrement intersidéral à la Johnny Hallyday, ok, et en fait on le fait crever et on te le dit après, au fait il y a l'amiral Akbar qui est mort, tu vois, okay.
Tout ça c'était un piège, hein, tu le sais, voilà,
c'était un piège, donc voilà les ordures, quoi, tu vois. Mais bon, après voilà, le truc c'est que le film, il est tellement aberrant. Blague à part, le film il est tellement aberrant que t'as carrément des renvois à la prélogie, littéralement. Ouais. C'est-à-dire que le truc qu'ils essayent de pas faire depuis le début, ils le font. Ouais. T'as cette espèce de Monaco là où ils vont là pour faire le.
Voilà,
une scène qui ne sert littéralement à rien. Tu vois, ils vont chercher un type qu'ils ne trouvent pas, tu vois, pour trouver un autre type qui fait une leçon de morale au personnage en lui disant, tu sais, le bien, le mal, ça va, il y a des nuances de gris, tu vois, pour que l'autre ne retienne rien du tout puisqu'il se fait enculer par le même personnage 10 minutes après. Donc il y a une vacuité dans les personnages et dans la stupidité des personnages en fait qui est hallucinante en fait. C'est-à-dire que chaque perso, c'est même plus qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils sont bêtes. C'est-à-dire que c'est pas Rey qui la force lui tombe dessus, elle fait ce qu'elle veut avec ses doigts et c'est réglé, en fait elle arrive à embobiner tout le monde parce qu'elle est force sensitive comme ils disent, tu vois. C'est même plus ça. C'est carrément en fait des moments entiers où chaque personnage est persuadé d'avoir une longueur d'avance sur l'autre et ils se font tous mettre, que ce soit Finn, que ce soit Snoke, que ce soit Ben, enfin tu vois, je veux dire le truc final quand même, hein, l'entourloupette finale avec Luke Skywalker, hallucinant. Alors oui, t'es content parce qu'il y a une planète de sel au lieu de remettre une planète de glace, une planète forêt ou une planète de sable, mais bon, enfin voilà, le mec il a rien créé. Il y a, moi, le seul truc que je note à peu près où je me dis, bon, le mec il est censé connaître Star Wars, c'est vraiment le seul détail. C'est pas une très bonne scène, hein, en soi, parce qu'il y a tous les problèmes dramatiques qui sont là, mais c'est le seul moment où je sens que le type essaye de rendre hommage aux racines japonaises du film, avec le combat entre juste après la mort de Snoke, en fait, avec le combat avec ses hommes de main, en fait, où tu sens qu'il y a une influence Kurosawa de loin, hein, parce que c'est évidemment pas du Kurosawa, quoi. Mais voilà, c'est le seul moment où je me dis, ah bon, il a pensé à ça pour l'intégrer dedans, quoi. Mais bon, c'est peau de chagrin, quoi. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Et je laisse la place à Julien, il est en train de...
Julien, à toi.
Pour rebondir là-dessus,
alors, c'est Kurosawa, donc.
Non, mais d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, et c'est assez aussi symptomatique du film, parce que beaucoup de choses, en tout cas, ont été dites avant moi. Mais ce qui est intéressant de cette scène, c'est tout à fait symptomatique aussi des problèmes du film, à mon sens, c'est qu'elle est dramaturgiquement, c'est une erreur grossière. C'est-à-dire que on vient de te vaincre le bad guy ultime par une espèce d'entourloupette un peu foireuse et pas franchement très étonnante ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas un moment, tu es surpris parce que Snook meurt, mais tu n'es pas surpris par la façon dont il meurt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où tu dis, ah putain, c'est super bien pensé ça, quoi. Et du coup, le fait qu'ils aient réussi à vaincre comme ça le bad guy, pour moi, j'avais aucune implication en fait sur ces hommes de main. Enfin, à partir d'où il peut y avoir un enjeu, vu qu'ils ont réussi à vaincre le chef de ces mecs-là, pourquoi tu t'impliquerais là-dedans? Et effectivement, je pense que toutes ces problématiques d'ennui, cette distance que t'as vis-à-vis des personnages et tout, vient du fait que il y a une lutte fondamentale en fait à l'intérieur du film, qui est, je pense, en plus initiée par Rian Johnson, sauf que je sais pas jusqu'à quel point il en avait conscience quand il a fait le film, qui est entre la façon dont le film s'inscrit dans une logique de saga, dans la logique de saga de Star Wars, et le film en lui-même. C'est-à-dire que dans la logique de saga, comme on l'a dit auparavant, c'est, on se retrouve dans une déstructuration de tout ce qui a été posé avant, du style bon, on fait du passé table rase, parce que là on est très mal barré avec ce que J.J. Abrams nous a laissé sur les bras, et on va essayer de reconstruire quelque chose, de redonner un peu de substance à tout ça. Mais par contre, ça, à l'intérieur d'une narration d'un film, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu peux pas avoir de l'intérêt et de l'implication vis-à-vis de ces personnages, alors qu'on n'arrête pas de te dire que ces personnages sont des coquilles vides, sont des abrutis, ne servent à rien, etc.
Je te pose une question, qui est vraiment une question naïve. Est-ce que ce manque d'implication émotionnelle ne vient pas aussi du fait... C'est-à-dire, quand t'as affaire table rase, tu peux avoir ta propre structuration narrative, inventer ton récit, partir sur des tangentes, des chemins de traverse, des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça n'est pas aussi du simple fait que moi, j'ai eu quand même l'impression de, si tu veux, de voir la colonne vertébrale de l'Empire contre-attaque en permanence, c'est-à-dire avec les... Mais, quasiment en permanence sur le montage parallèle, sur les intentions de on fait ça pour ça. Je veux dire, d'un côté, t'as des mecs qui essayent d'éviter qu'on les poursuive comme ça, ils étaient en pire contre-attaque.
Surtout parce qu'ils sont en difficulté.
Oui, oui, oui. Non, mais quand Yann Solo et tout ça fuyaient l'Empire, tout est drivé par l'histoire d'amour entre Leia et lui. C'est-à-dire, tout est drivé par ça. Si tu enlèves ça, mais il se passe rien.
Quoi,
dans celui-là, il n'y a rien. Donc, forcément, il ne se passe rien. Mais est-ce que ma question, c'était, est-ce que ça vient pas de ça? Est-ce
mais
que
si,
ça vient
pas
du fait qu'on attend à chaque fois, vu qu'on a la même structure dans nos gènes, on les connaît tellement les films. C'est-à-dire qu'on voit le truc, on se dit, bah, forcément, en fait, s'ils ont un minimum de cohérence, ils vont aller dans cette direction-là, et il ne se passe rien, ils cassent tout ça. Donc tu sors complètement du truc.
C'est très compliqué de répondre à cette question. Non, mais c'est très compliqué de répondre à cette question, mais je pense que tu aurais le même problème dramaturgique si un film s'inscrivait dans cette ligne mouvance-là, dans la saga du Seigneur des Anneaux, par exemple, tu vois, pour reprendre une grande saga comme ça. Je pense que tu ne peux pas faire ça comme ça. Et je pense que ce truc avec l'épilogue et avec ces petits personnages de gamins à la Dickens, et c'est marrant parce que cette scène elle est épouvantable, hein, on est tous d'accord avec l'espèce de Dubaï galactique, et en plus c'est un truc aussi qu'on n'a pas trop dit, moi je suis assez déçu en fait techniquement sur le film. Je trouve que par exemple Snook, quand tu viens de voir le dernier Planète des Singes et puis tu tapes un personnage comme Snook en performance moche, capture, c'est t'as un temps de retard quoi là, enfin tu dis putain merde, on est parti en arrière, alors que Star Wars devrait être précurseur de ce genre de choses. C'est anecdotique hein, ça, et c'est pas le fond du problème, mais bon c'est quand même un détail, et surtout dans cette séquence là, et notamment la scène de cavalcade des espèces de chameaux là, il y a des plans qui sont assez problématiques. Il y a aussi des plans plus tard où t'as vraiment l'impression que les pelures des personnages incrustés sur les dos en images de synthèse ils ne fonctionnent pas, enfin qui sont collés là, et qui sont des problèmes qu'on pouvait avoir dans la prélogie. Et que là on se retrouve là, c'est assez marrant de voir ça, alors que Rian Johnson s'inscrit comme un mec venant justement d'un cinéma plus organique, plus viscéral. Le film est tourné en pellicule, hein, je crois qu'on l'a pas dit et tout, mais comme le J.J. Abrams d'ailleurs, et c'est marrant de voir qu'on se retrouve avec tout ça. Donc voilà, et comme on l'a dit plus tard, auparavant, il y a pas de proposition vis-à-vis de tout ça. Moi, je pense que aussi on peut peut-être se projeter et faire un peu de prospective, c'est-à-dire que au train on veut les choses, vu que c'est J.J. Abrams qui reprend le truc, vu que sur tous ces espèces de spin-off ils savent pas où ils vont chez Disney, où ils virent les gens, etc. Moi je n'arrive pas à croire qu'ils vont pas tuer Star Wars comme ils ont tué quelque part Mickey. C'est-à-dire que Mickey c'est un personnage qui n'existe plus dans la fiction. Ils avaient réessayé un reboot, je crois, il y a 4 ans, j'avais vu un pilote, moi, Annecy, mais qui n'a donné lieu à rien, en fait. Et il y a un truc qui fait que Mickey n'existe plus, en fait, aujourd'hui. Il n'existe que comme une marque.
Ils veulent plus y toucher, surtout.
Il n'existe comme une marque, c'est un logo, en fait. Tu vois. Et je me demande, en fait, si. Parce que là, ils sont en train de casser la religion, en fait. C'est-à-dire qu'en sortant, ils respectent plus le temple. Ils n'arrêtent pas de casser les trucs qu'ils ne devraient pas casser. C'est ça aussi le problème de Rian Johnson. C'est que je pense que dans sa destruction du mythe, il casse aussi des trucs qui ne devraient pas être cassés. Moi, je pense que le traitement en fait, qu'il a fait avec Luke Skywalker, qui est un truc qui est assez unanimement salué, je vois autour du côté des laudateurs du film, moi, je pense que là, il franchit en fait, des barrières qui font que tu ne peux pas revenir en plus derrière. Tu ne peux plus admettre que ce mec... dont tu as suivi le cheminement sur les trois films importants, les trois bibles en fait du premier film, se retourne comme ça. Je pense que là t'as un truc où dans les canons en fait de Star Wars tu peux plus c'est fini, t'as cassé quelque chose. Et moi, je pense qu'ils sont en train de détruire ce qui était une religion pour transformer ça simplement en marque. Et je pense qu'au long terme, parce que là, en fait, Disney sont dans une optique de bénéfices à court terme, mais je pense qu'au long terme, ils vont casser leur truc, en fait.
Non, mais il y a les mecs de la Fox qui vont arriver, qui vont s'en mettre un petit peu.
C'est de la prospection, je peux me planter et tout, et je mets ça avec des pincettes, etc., quoi. Mais je lance ça comme une piste de réflexion. C'est-à-dire que c'était intéressant parce que nous aussi, on l'a vu au Max Linder Panorama. Alors, j'étais pas avec Yann et Steph, j'étais pas sur le même rang, mais moi, par exemple, il y avait un mec qui avait... Le seul mec déguisé est venu en Kylo Ren, en fait. Et je me suis senti mal, en fait, pour lui en sortant. Parce que je me suis dit, le mec, il vient avec ce masque, etc. Et puis, il vient de voir un film où on le détruit.
Ouais.
Et je me suis dit, tu serais à sa place, il est venu comme un truc festif. C'est-à-dire que tu viens voir Star Wars comme un truc festif, comme t'allais voir, et puis il y avait les mecs avec leur sabre laser, et puis tu vois le logo Star Wars qui apparaît avec la fanfare, et puis tout le monde applaudit. Là, personne n'a applaudi. Il y a un hommage à la fin à Carrie Fisher. Dans notre salle, en tout cas, il y avait beaucoup de monde. C'était la première séance. Tu peux te dire que ce sont des fans quand même qui viennent voir ça. C'est pas des vilains journalistes blasés et trop vieux et aigris. Et il y a l'hommage à Carrie Fisher. À la fin, personne n'a applaudi. Le générique est arrivé, personne n'a applaudi.
Nous, la salle était vide déjà. L'ambiance
était assez mortifère. Je ne parle pas des gens qui derrière moi ont râlé en disant c'est pas un Star Wars, c'est affreux, sortez-moi de là. Il y a eu ça en plus, moi. Mais bon, ça c'est un épiphénomène et je ne vais pas prendre ça pour en faire une règle générale, quoi. Mais il y a quand même un truc où je me dis ils sont en train de flinguer ça, quoi. Vraiment, je pense qu'ils sont en train de les tuer.
En plus, cette destruction, David, elle est de la mythologie, elle est pas totalement assumée parce qu'il y a notamment la scène de l'incendie des reliques et il y a un plan à la fin où on voit qu'elle a sauvé les reliques.
Elle a gardé les livres.
Et du coup, il y a ce truc, c'est même pas le geste punk de dire
effectivement.
On balance.
Oui, en plus, il y a cet entre. Moi, je voulais juste rajouter un autre truc avant de laisser la parole à Daniel, mais il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que dans cet aveu d'échec, parce que je voudrais rebondir sur l'humour, en fait, qui est important, en fait, dans les derniers Jedi. Et je pense que s'il y a un aveu d'échec, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la seule façon, c'est comme les Marvel, c'est-à-dire que on est arrivé à un point où la seule façon de créer de la connivence avec ton public, c'est de te moquer du truc, c'est de le désacraliser. C'est-à-dire qu'on ne peut plus créer de connivence parce que t'es ému, parce que t'es enthousiasmé, parce que le personnage se réalise en tant que héros, parce que voilà, tu es obligé de créer de la connivence avec ce truc qui est ultra bas, en fait. Je dis pas que c'est forcément déshonorant, moi j'ai rien contre ça dans l'absolu, mais quand il y a plus que ça, c'est pas très bon signe, en fait. Qu'est-ce que tu as après ça?
Et en plus,
quand tu as plus ça, qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce qu'ils vont avoir ensuite?
Et en plus, l'humour était quelque chose d'important dans Star Wars. C'est la manière dont c'est utilisé, la manière dont c'est intégré dans
sur Star Wars.
Bah oui, voilà, exactement.
C'était de l'humour avec les personnages,
bien sûr.
Et qui venait souvent des personnages.
Exactement.
Daniel,
Je vais rester un peu sur l'humour grâce à toi, en fait, parce que je me mets toujours à la place des mecs de Disney, donc qui ont claqué leurs 4 milliards. Mais on voit que 4 milliards finalement, c'est rien du tout quand ils ont claqué 50 milliards pour s'acheter Fox.
4 milliards, t'as plus rien.
Ce qui est la preuve quand même qu'ils ont fait une putain d'affaire quand même en rachetant Lucasfilm pour seulement 4 milliards.
Mais là, il n'y a que 2 licences, hein, alors que chez Fox, ils en ont un paquet.
Ouais, tu fais quand même potentiellement plus d'argent avec les serviettes de bain Star Wars qu'avec.
Je pense que c'est pour leur truc de streaming, en fait, qui vient dans 2 ans. Ouais,
c'est
pour
eux qui récupèrent tout ça, quoi. Et du coup, il y a vraiment un souci en termes d'humour dans ce film. Je crois qu'Anaïs le parlait, il y a cette espèce de connivence, de wink, qui est vraiment très Guardian of Galaxy, en fait. Mm. Et je me mets à la place des mecs de Disney, qui ont donc racheté Marvel, et qui voient que Marvel avait ce projet de Guardian of Galaxy, ils disent, ouais, mais attendez, il y a un mec un peu rogue, il y a une grande bestiole, en fait, vous nous faites Star Wars, et ils étaient bien emmerdés, en fait. Et le paradoxe, c'est que la plus grande emmerde qu'ils aient eue, c'est que Guardian of Galaxy soit un si gros succès et qu'il fasse en faire des suites, en fait. Et du coup, ouais, ils sont vraiment emmerdés et ils essayent de trouver une espèce de lol permanent, alors que si on regarde le film, honnêtement, il est sinistre. Il est sinistre, vous soulignez à juste titre que ça n'applaudissait pas ou qu'il n'y a pas eu de joie, enfin, il n'est pas euphorisant. Il est d'une tristesse, puisque en fait, il met en exergue, vous avez parlé de la religion, la thématique centrale de Star Wars, à mon avis, est sacralisée dans cet épisode, c'est l'échec de la paternité. C'est mis en exergue tout le temps. On te rappelle que tout ça, c'est la faute des pères foireux.
C'est vraiment la
grande thématique. Vador bof comme père. Luc en tant que père théorique est nul. On le voit. Il faut le rappeler. Il faut le ramener à l'ordre tout le temps. Pour il est bougon dans sa caverne. Il a ses petites femmes de ménage extraterrestres.
Il a des espèces de vaches. De l'espace qu'il traîne.
Du coup, tout ce truc, c'est la parentalité évidente. Entre le maître, enfin le Snook, enfin il y a toujours un problème au terme dans la filiation.
Des grosses daddy issues.
Et clairement, on parle de daddy issues. C'est clairement ça. Et en même temps, c'est un film qui s'autorise à, enfin qui nous rappelle en fait que si t'es mauvais père, ça mène à une espèce de nazi de l'espace, en fait, ce qui est un peu puisque l'Empire est interchangeable avec le Premier Ordre, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours des mecs en uniforme noir. Et en même temps, c'est un film où il y a Chewbacca qui devient végétarien.
Je l'avais noté comme toi. C'était le premier film vraiment vegan.
Et tu vois, c'est des petits winks qui m'ont fait rire. Alors, je me suis demandé à qui s'adresse vraiment ce film, parce que pour moi, Star Wars, dans son essence, je suis très Star Wars premier film. Hein. Même l'Empire contre-attaque, déjà, j'adore le premier film. C'est un film qui doit s'adresser aux enfants, et je me demande toujours à qui il s'adresse. Les histoires qu'il raconte sont hyper glauques. C'est massacre sur massacre. Au moins celui-là, il n'y a pas de membres coupés qui est un peu leur gimmick, un peu maintenant, surtout de George Lucas, où il y avait toujours des membres coupés. Et du coup, je me demande.
Il y a quand même un mec coupé en deux. Bon.
Mais par accident, parce que le sabre laser était posé sur le guéridon. Enfin. Donc je me demande à qui s'intéresse en fait à ce genre de personnage. Et moi, je vais vous dire. Alors, je sais pas si j'ai vu à peu près où vous allez avec ce film. J'aime bien Kylo Ren, en fait. Je trouve que son personnage, il a un arc bizarre, il a un arc intéressant, il est tiraillé entre deux sens. C'est un truc très très simple, hein, mais ça marche. Et surtout pour moi, ça marche parce que Adam Driver, je le trouve très très bon. Je trouve que c'est un super bon acteur. Je trouve que par rapport à le matos qu'on lui donne, il s'en sort vraiment bien à tous les plans. On dirait qu'il chiale, il est toujours tiraillé. Et en même temps, il y a l'espèce de nazi sous-chef là, qui lui fait « c'est moi le chef ». Et là, tout d'un coup, il se vénère. Et l'autre... Et enfin, on comprend pas comment ce gogol arrive à la tête de l'Empire presque par accident.
C'est ça le problème, c'est un gogol.
Non, mais j'adore ce personnage, j'adore Kylo Ren.
Mais au second
degré. C'est le mieux développé du film.
Alors,
c'est
les boueurs de l'espace, la Fine, j'ai trouvé qu'il était. Il fait rien dans le film.
Mais ça, c'est pareil, tu vois, la scène où ils reviennent justement dans l'Empire, tu pourrais te dire, ne serait-ce que. Enfin, le truc de merde de base, hein. Au lieu qu'il se déguise en amiral de l'Empire, il se déguiserait tout simplement en Stormtrooper de nouveau. Juste, en fait, tu vois, il y aurait ce truc où il se dirait merde, en fait, je suis en train de revenir pour ça, tu vois.
Ça aurait été pas mal. Il devrait t'engager.
En fait, ils auraient juste fait ça, t'aurais dit, ok, on a un peu développé le perso qui n'est juste littéralement pas développé.
Mais oui, incarné, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même fou, quoi. C'est censé être un enfant soldat et le mec revient effectivement, quoi.
Il a vraiment un arc narratif qu'on aurait pu fouiller.
Il ne croit pas à ses personnages, mais alors d'une force, quoi.
Ça va pas au bout. Il y a cette petite scène avec Rose à la mort de Rose. Moi, ça m'a fait penser à Rambo 2.
Enfin, je ne sais pas
si la référence est assumée ou pas.
Alors, tu dis pas le mal de Rambo 2. Pas à cette table.
Mais on est méchant avec Finn parce qu'il nous débarrasse de Phasma, qui est quand même un truc pour vendre des figurines. Et elle est absolument charmante, la nana de Game of Thrones. Elle fait tous les press junkets. Elle a toujours l'air contente d'être là. Mais tu fais rien dans ton film.
Elle apparaît 10 secondes.
C'est vrai. Enfin, c'est Lupita Nyong'o qui est vraiment là pendant une scène pourrie de Holo. Voilà,
d'après ce que j'ai su, elle a été tournée à l'iPhone de la même manière que Justice League, en fait. Ils ont juste rajouté l'image de synthèse
c'est
par-dessus.
C'est juste pour le chèque, quoi.
Donc je me demande vraiment à qui s'adresse ce film. Et en fait, vu que Kylo Ren est un personnage qui me plaît dans mon goût pour les nanars et pour les trucs un peu décalés, du coup je me dis, oh là, je l'aime pas pour les bonnes raisons. C'est très mal fait, en fait, ce film. C'est qu'il s'adresse pas du tout aux gamins à qui ça devrait s'adresser. Ça s'adresse aux trentenaires, quarantenaires qui sont un peu
ceux qui ont grandi avec Star Wars et à qui il faut resservir
pour voir que c'est nul quand même.
Non, parce que t'as plein de gens qui trouvent ça mortel et là t'as encore beaucoup de gens qui t'expliquent. Moi, la réception de celui-là, elle est étrange parce que
c'est vraiment très très particulier.
C'est très particulier dans l'histoire de Star Wars. C'est étrange pour une raison, en fait, c'est que t'as d'un côté les mecs qui t'expliquent que l'épisode 8 c'est le meilleur épisode depuis l'épisode 8, tu vois, genre en gros voilà.
Non mais attends, on les collectionne les articles, voilà. Les mecs qui disent voilà. À chaque fois c'est le meilleur depuis
Empire
Strikes Back.
Et à côté de ça, en fait, si tu veux, je pense que c'est un film qui est objectivement mieux foutu qu'épisode 7, qui était juste la honte intergalactique en termes de fabrication.
Épisode 7 une succession de fanservice ouais.
Mais, et je pense que le film, il paye le prix d'épisode 7, c'est-à-dire qu'après, une fois que l'engouement est retombé derrière épisode 7, et ben celui-là, en fait, il est scruté de manière un peu plus, tu vois, un peu plus... Qu'est-ce qu'il y a, bro, il rigole.
Parce qu'il n'a pas parlé.
Et alors, voilà, je vais lui faire un enchaînement.
Pourquoi il s'exprime
les films un peu nanardeux...
T'es pas obligé de montrer ta bite pour demander la parole.
Alexandre.
Les films un peu nanardeux, les nazis de l'espace, je pense qu'Alex, ça l'a mis dans l'ambiance. Je pense qu'il est chaud. Vas-y, Alex.
Non, mais je vais de conclure sur de dire des trucs gentils parce que vous avez été tellement méchants. Non, le film est pas parfait. Le film dure 2h30, c'est une heure de trop. Il y a trop de storyline à la con, etc.
J'aime bien.
Je commence par ça et je finirai par la pommade.
Si tu permets, il y a juste un truc que je voulais ajouter pour montrer la simplicité de l'écriture tellement bête.
Tu le laisses pas parler en fait.
C'est le. Non, juste je voulais finir sur un truc. C'était le casino. Vous l'avez tous dit là, le Dubaï de du pauvre, mais à un moment il prend ses jumelles et il regarde, et juste au moment où il regarde ses jumelles, il tombe à la fois sur un moment où on bat les enfants et où les animaux sont battus,
le seul moment
genre c'est le seul arrive. Il prend ses jumelles, c'est comme si les jumelles avaient un détecteur d'enfants qui se font battre. Et les enfants, par contre, il faut, ça c'est vraiment une leçon qu'il faut retenir quand même de George Lucas, c'est qu'il faut pas faire jouer les enfants, parce qu'on a tous l'impression que c'est les enfants des producteurs. Et ils jouent tous très très mal, c'est horrible. Vas-y,
d'accord.
Alex.
Je suis tout
vas-y
à fait Alex. D'accord.
Nazi.
Je sais pas où est-ce que j'en étais. Non, mais voilà, donc le film est trop long, etc. Après, le film est bancal par nature parce que, comme vous l'avez dit, il a la volonté très intéressante de vouloir tuer le précédent. Et en même temps, le cahier des charges est ce qu'il est, c'est qu'il doit se débarrasser des icônes, donc des personnages phares. On a expulsé Han Solo via l'épisode 7. Là, on se débarrasse de Mark Hamill. On n'a pas parlé
de la mère Akbar.
Voilà.
Écoutes, les salauds.
Il y a quand même cette chose. Moi, on n'en a pas parlé pour l'instant. On a parlé juste du fait du relatif manque d'hommage dans vos salles à l'apparition du crédit de Carrie Fisher sur le générique, mais on n'a quand même pas parlé de ce truc très bizarre. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu le film et que le personnage de Leia, et à un moment, on est pratiquement sûr qu'elle meurt, ça arrive au premier tiers, voire au premier quart du film.
Et au bout de 10 minutes.
Voilà, au premier quart du film. Et du coup, on se dit, ah bah putain, en fait, ça les a pas trop emmerdés. Enfin, voilà. Et en fait, non, elle revient, elle fait un truc un peu chaud dans
l'espace. Absolument pas du film en fait, il ne la sort absolument pas de la saga.
Il ne la sort pas du tout de la saga et donc ça va être fascinant.
Il y a une très belle scène à la Fortress 2. Donc comme Berlan en fait, elle fait une espèce de petite brasse pour revenir voilà.
C'est ça.
Alors moi j'avais pas très bien compris déjà la force, j'ai un peu du mal avec ce qu'ils en font là dans celui-là, mais alors en plus maintenant là c'est carrément en
tu
fait
peux respirer dans l'espace.
Ah ouais, elle
mec, c'est
bon.
De la magie, c'est de la magie.
C'est ce que je disais dans le prochain.
Mais c'était tellement préparé que masterise la force Leia, bien sûr.
Mais ouais, non, c'est pas préparé
justement. Ouais. C'était ironique Stéphane, voilà. Mais
non, mais parce que moi je me dis la force c'est vachement bien la force, tu peux cuire tes pâtes al dente, en fait tu peux tout faire avec la force, c'est magnifique quoi.
Non mais Le fait est que cet épisode-là, c'est le deuxième d'une trilogie, donc c'est forcément le cul entre deux chaises parce que on en est au point où tout repose sur les épaules frêles de J.J. Abrams, qui va devoir avec le troisième, se débarrasser. J'espère au bout de 10 minutes.
Mais non, il s'en fout, il va faire ce qu'il veut.
Non.
Et tu le sais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Rian Johnson, pour le défendre, parce que je pense quand même que ce mec est défendable, il a à la fois montré son envie de se débarrasser des trucs qui l'avaient fait chier dans l'épisode précédent, et en même temps, il est coincé parce que il doit conserver ces personnages là qui sont tous chiants, enfin Finn, on a rien à foutre, Poe, le personnage incarné par Oscar Isaac, qui passe très bien à la caméra,
un bon teubé aussi,
il passe très bien,
il a vraiment une facture, tout le monde, et à la fin lui dit je l'aime bien quand même, du coup là
il a une certaine prestance, ne serait-ce que voilà, à chaque fois qu'il est à l'écran il y a quelque chose qui se passe, mais son personnage est mal écrit.
Ils allaient chercher des acteurs de talent pour jouer ces rôles là même la nana qui jouerait, tu vois, qui avait rien fait avant, oui, d'accord. Elle a du charisme, elle a quelque
chose. Justin Theroux dans la scène, là, sur Dubaï, quand
il les acteurs, ils ont leur charisme, ils ont leur charisme et ce que tu veux, etc., etc. Mais quand t'as rien à jouer, il n'y a que ça qui fonctionne, en fait. C'est ça le problème.
Mais moi, pour juste sauver le film, et je finirai là-dessus parce que tout ça a été dit, et je suis à peu près d'accord, bizarrement, avec tout le monde. Mais il y a un truc qui m'a quand même assez bien plu à la fin. Donc, on a tous loué
ne serait-ce que les qualités visuelles de ce climax sur la planète de sel, avec ces traînées rouges qui apparaissent comme ça dans les plans. Moi, il y a un truc qui m'a quand même assez plu, c'est ce gimmick, ce twist, qui est que le Luke Skywalker qu'on voit débarquer avec cette petite gueule qui n'est pas celle qu'il a au début du film, avec ses cheveux hirsutes et tout, mais il retrouve la coiffure des épisodes précédents, etc. On se rend compte après, spoiler alert, voilà, que c'est qu'une projection de son esprit, ouais, de façon un peu hologramme, etc.
Comme Schwarzenegger dans Total Recall.
Voilà, et en fait, non, mais je trouve que c'est un côté un petit peu méta, assez pas désagréable du truc, parce que voilà, c'est une version rajeunie de lui, complètement factice, qui pour moi fait écho à la gueule de CGI de Carrie Fisher dans Rogue One, qui fait écho à plein d'autres choses, au retour de Yoda, enfin en gros, c'est cette espèce de projection fantasmée de sa jeunesse, et Rian Johnson utilise ça pour dire que finalement tout ça n'a pas grande importance, il est là sans être vraiment là, mais les gens, et ça c'est l'épilogue avec les petits gamins qui jouent en racontant la légende de Luke Skywalker, les petits gamins vont y croire, mais finalement bon, c'est presque une réflexion sur ce que la façon dont le film va être accepté.
Mais bordel, c'est quand même problématique de se retrouver dans un truc où t'as un personnage qui n'a pas besoin qu'on lui raconte la légende dans épisode 8, puisqu'on peut déjà la raconter à partir d'épisode 6. Et le truc, c'est que ce personnage-là, le personnage à la fin d'épisode 6, alors certes, il y a 30 ans qui sont passés, mais c'est devenu une espèce de vieille bique qui rouspète sur son île, tu vois, et qui n'est pas Luke Skywalker, parce que fondamentalement, en gros, c'est censé être le sage. Et le sage, en fait, t'as carrément Yoda qui vient le voir et qui se fout de sa gueule et qui lui dit « Mais arrête, t'es complètement
Mais c'est Jean-Luc Mélenchon,
con,
il a eu plusieurs vies.
Non mais voilà, donc c'est pas Luke Skywalker. À un moment donné, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai pas l'impression, de la même manière que j'avais pas l'impression de voir Han Solo, ou alors le Han Solo vaguement, tu vois, de comment dire, du premier en vioque, quoi. Bah là, j'ai pas l'impression de voir Luke Skywalker. Mais en gros, j'ai le même problème avec Carrie Fisher. J'ai pas l'impression de voir la princesse Leia non plus.
On sent qu'elle a été très habilement toujours remontée. Enfin, on sent que le montage a été très délicat avec elle. Tu sens qu'il y a vraiment, ils ont
pensé
au truc.
Moi, je pense que David Honorat avait raison depuis le début. Donc, je vais faire mon fan. et que je pense qu'effectivement, ça part dans tous les sens parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans ces films qui sont en plastique jetable, et moi, parce que quand j'entends les retours des gens qui ont adoré, hein, j'ai même des gens qui m'ont dit qu'ils ont pleuré d'émotion. Donc, j'arrive pas, j'ai du mal à le saisir, mais je peux l'entendre. Et systématiquement, les argumentaires ne tiennent que sur les 10 dernières minutes du film. C'est-à-dire que tout est systémique. Tu vois, c'est comme la fin de la prélogie où on va te raccorder avec le début de Star Wars épisode 4 et où tout le monde, c'est génial, et tu ne retiens que ça et t'as l'impression que tout est extrêmement cohérent parce que ce final se reconnecte.
C'est comme ça que c'est perçu.
Ce que je trouvais terrible, c'est que finalement, le projet du film, il tient dans les 5 dernières minutes, et d'ailleurs, il est pensé de cette manière-là. Les gens ne retiennent que ça. Ils disent, c'est génial, ça promet mortel pour la suite, comme tu parlais de la bande-annonce pour la suite. Oui, mais il n'y a que ça. Et puis je fais un truc qu'on n'a pas dit qui est adressé à Julien, parce que ça m'énerve aussi, il a raison. C'est pas que
tout le monde a raison.
C'est pas, non mais je suis sympa, je valorise mes potes.
Ah, c'est vrai,
c'est quand tu parlais des VFX, au-delà des VFX, on sait quand même tous que Star Wars avait été quand même fait en termes de créativité à partir de design industriel par rapport à des mecs qui pensaient la fonctionnalité, la raison d'être et tout. Alors on se pignole un peu tout sur la scène de la planète de sel à la fin, mais un jour il faudra m'expliquer les vaisseaux spatiaux qu'ils utilisent pour aller fighter le canon avec des espèces de petits skis qui descendent et où tu te dis, alors là moi j'aimerais savoir qui est le designer industriel pour me trouver la logique de ces trucs là qui sont les trucs les plus mal branlés au monde pour aller attaquer un canon méga puissant qui va te foutre sur la gueule, quoi.
Il y a une grosse problématique en termes de méca design, puisque normalement dans le lore Star Wars, les bombardiers ça a toujours été les Y-Wing, et là tout d'un coup les bombardiers ça devient des gros machins, et normalement c'est des torpilles qui balancent, et là pourquoi c'est plus des torpilles, pourquoi ils balancent des bombes
par
la gravité,
il y a plus de logique interne.
J'ai
du mal à croire qu'on puisse pleurer à la mort de Luke, en fait. Elle est tellement déceptive. Tu dis, comment cette icône-là peut mourir juste en faisant une projection?
Je pense pas que c'est la mort de Luke Skywalker.
C'est terrible.
Je pense que c'est pas la mort de Luke Skywalker. Je pense que c'est les fantasmes. C'est comme tu dis, il y a besoin d'y croire. Donc au bout d'un moment, tu te raccordes à ce que tu peux. Et quand tu vois bien, comme le dit très justement Daniel, que tu tapes quand même 2h10 histoire de sinistre aux aigus, parce que c'est vrai, où est-ce qu'il est l'enthousiasme, où est-ce qu'elle est la joie, où est-ce qu'elle est l'exotisme,
les petites
bestioles ridicules qui apparaissent de temps en temps qui disent des conneries, mais effectivement tu projettes. Donc quand à la fin les mecs, après s'être tapé quand même 2 heures d'un truc qui est quand même darkissime, c'est pas fun. C'est, et puis quand même les derniers vestiges de ce à quoi on pouvait se raccrocher et bazarder à la vas-y je te pousse, et que tout d'un coup t'as 3 petits gamins, l'autre qui se prend le balai et tu dis ah, oh, mais on va avoir quelque chose de différent après. Bah super, il me tarde la suite. C'est comme la momie, tu sais, tout le film c'est juste pour te dire attends, tu vas voir, après il y aura d'autres monstres, ça va être cool. Mais c'est pareil.
Ouais, mais Russell Crowe quoi. Ouais,
c'est ouais, c'est en plus, en plus je maintiens les choses que j'ai dit, mais je pense que en termes théoriques, ce qu'a dit de nous Alexandre était assez juste. Malgré tout, ça fait pas un bon film.
Alors
voilà,
c'est surtout. Et je pense que Yannick et Alexandre ça va être traité, parce
que les bien sûr que ce sera pas traité dans le film. C'est pour ça que je dis que c'est un leurre.
Les 5 dernières minutes, on parle des 5 dernières minutes, mais c'est les 30 dernières secondes qui comptent le plus.
Exactement.
C'est les 30 dernières secondes puisqu'on voit des gamins qui se sont fabriqués des jouets Star Wars.
Ouais, c'est ça.
Et c'est la première fois qu'on voit leur propre. Ah, on avait vu ça au Star Wars quand ils jouaient sur la. Il y avait la table dans le Faucon Millennium. J'adorais cette table. Je me disais putain, mais qu'est-ce que c'est mortel, un jour on aura ça.
Le jeu d'échecs.
Ouais. Et puis il avait le casque pour s'entraîner avec le sabre laser. C'était assez cool.
C'est une scène qu'il a piqué sur le Règne du Feu d'ailleurs, ouais. La scène finale.
Mais le truc là, la dernière scène avec les enfants qui jouent avec des figurines Star Wars. Ouais. On a atteint le métafilm dont on nous parlait. Alex,
le meta merchandising.
C'est les enfants parlent de la légende, ils peuvent jouer à la légende, et puis
je pense que le
et puis
sujet
les gamins ils peuvent aller acheter leur McDo avec leur.
Mais moi je pense que le sujet il est là. Je pense qu'il est sur la révolte de ces gamins et sur les trucs. Non mais c'est vrai.
Donc, ce qui
je pense que
pas.
Le sujet est là. Je pense que c'est sur un univers un peu à la Dickens ou voilà. Là, moi je me suis dit il y a un truc qui est écrit.
Mais bien sûr. Mais bon.
Je fais un pari pour épisode 9. Je pense qu'il y aura un time jump. Voilà.
Non mais je pense qu'il y a J.J. Abrams, c'est que c'est mort quoi. Excusez-moi.
Et Rian Johnson est censé faire une nouvelle trilogie.
Ouais.
Non mais ça c'est un effet d'annonce.
On verra bien. On sera là.
Il aura le temps d'être là. Remplacé par Trevor.
On sera là pour voir ça par Colin Trevor.
On va voir de l'intérieur toute la schizophrénie de quelque chose qui essaye de se valoriser en s'aliénant. Ça reste quand même intéressant. J'essayais d'être positif.
Et là Bourdieu avait dit merde, on
clash l'affaire. Non,
c'est fini, c'est terminé.
C'est terminé. Vous savez ce qu'il disait Baudrillard?
Rendez-vous l'année prochaine. Non, j'y arriverai pas. N'arrêtera pas.
C'est une émission sans fin.
C'est une émission sans fin.
Parce que c'est fait pour être sans fin.
Je vais quand même couper. Tu peux couper leur micro.
On peut parler des 6 millions.
Et du coup je meurs en direct, c'est triste. Notre temps est écoulé, merci à tous les 7, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir, si vous n'avez pas peur. Et en attendant on vous dit à très vite.
Rosebud. Salut, c'est Mehdi Maizi, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fans.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle, dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle, or upgrade to next-level protection with the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.